La première des choses que l'on va faire, c'est lire et entendre ce passage de Nombre 21 dans la Bible, Ancien Testament, auquel notre évangile du jour fait référence dans cette comparaison du Fils de l'homme avec un serpent. Nombre 21. Le peuple vint à Moïse et dit « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardé le serpent d'airain conservait la vie. Je me suis posé énormément de questions sur notre texte du jour et je ne vais assurément pas toutes les développer ce matin. Notre texte du jour, un extrait parmi les plus denses théologiquement du Nouveau Testament, mais ma première réaction a été la stupéfaction devant la liberté que prend l'écrivain Jean pour oser comparer Jésus, le Fils de l'homme, à un serpent. Ou du moins à l'image, à la représentation d'un serpent, une représentation destinée à conjurer le danger des vrais serpents, et cette façon d'utiliser une image, une représentation, une effigie du danger pour le conjurer, était commune en Égypte, d'où venaient, comme vous le savez, les Hébreux. Mais le serpent, dans la Bible, c'est une figure ambiguë. Il peut donner la mort, évidemment, mais il est aussi un des symboles de la fertilité, de la vie et de la guérison. Chaque prédicateur sur ce texte a évoqué à ce moment précis de sa prédication le fameux caducée ou d'autres bâtons avec des serpents qui, pour les médecins, qui, pour des pharmaciens, etc. Mais ça c'est fait. On ne va pas oublier non plus le fameux serpent de la Genèse, qui est beaucoup plus ambigu que la représentation unilatérale que la tradition en a faite. Si bien que là aussi, chaque prédicateur peut s'époumoner à dire que ce serpent, ce n'est pas une figure diabolique. Tant pis, il y a quand même 2000 ans, même plus 3000 ans d'interprétation derrière lui, qui fera que, juste après, on dira, c'est le diable qui a trompé Ève. Donc non. Mais on ne peut pas lutter. Je ferme cette petite parenthèse sur la tradition. Donc, on ne voit pas comment Jésus, qui parle du Fils de l'homme, mais on sait bien que l'Évangile fait tout pour que le lecteur comprenne que c'est de lui qu'il parle, comment Jésus pourrait s'envisager lui-même comme donnant la mort. Avec sa langue venimeuse, alors que c'est bien lui qui, par ailleurs, traite tous les notables religieux qui l'entourent de langue de vipère, à moins que Jean, dans ce texte, se moque d'une imagerie, d'une iconologie, d'une statuaire peut-être qui aurait commencé à se développer dans les églises à partir du IIe siècle et qui pousserait déjà à confondre l'image et l'origine, Dieu et sa représentation. Peut-être c'est une partie de la solution à notre problème. En tous les cas, cette ambiguïté de la figure du serpent se révèle tout de même fort utile pour comprendre la suite du texte et sa profondeur dans laquelle je vous invite ce matin. En effet, quand il est écrit Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Quand on entend cette phrase, on sent bien que cette affirmation-là est en fait une réponse. Si cela avait été évident pour tout le monde, Jean n'aurait pas pris la peine de dire cette phrase. Alors une réponse, mais à quoi ? Une réponse à la très religieuse affirmation qui déjà devait exister du temps de l'écriture de l'évangile de Jean, que Dieu aurait envoyé son Fils dans le monde pour le juger, ce monde, et le juger dans un sens binaire. Comme un serpent. À certains, il donnerait la vie, et à d'autres, il donnerait la mort. Et on sait que cette représentation binaire du comportement divin est encore utile pour aller effrayer le peuple qui justement pourra conjurer sa frayeur par une grande créativité dans l'exercice de la représentation du divin et de ses acolytes, ou dans la représentation des figures dangereuses ou autres gargouilles, comme les Hébreux dans le désert avec leurs serpents en bronze. Dieu n'est pas un serpent. Donc si vous sortez cette phrase du contexte de la prédication, vous direz que c'est de plus en plus bizarre à Port-Royal, quartier latin. Je répète, donc, si vous voulez vraiment l'extraire, Dieu n'est pas un serpent. En fait, semble dire Jean, malgré sa comparaison initiale, qui relève sans doute d'une forme d'ironie. Mais après cette réponse contre le Dieu binaire, le Dieu serpent, le Dieu effigie, après cette réponse qui dit « Dieu n'est pas venu juger le monde », ce qui sous-entend qu'il n'est pas dangereux, et donc qu'il n'a pas à être représenté, c'est-à-dire qu'il n'a pas à être enfermé dans une image ou une représentation ou un concept, par exemple le concept du Dieu juge, après cette réponse finalement apaisante, doit-on conclure que Dieu ne juge pas ? Mais s'il ne juge pas, il n'y a donc aucune instance critique de notre comportement, aucune instance à laquelle je ne peux dire « je ne reconnais pas ce tribunal ». Et dans ce cas, comment faire ? C'est-à-dire, comment faire bien ? Ou comment éviter de mal faire ? Ou mieux, comment éviter de faire du mal ? Ou encore mieux, de faire le mal, de produire le mal, de créer le mal. Et c'est là que ce texte est subtil, bien plus subtil que tous les archétypes religieux qui remplissent nos têtes, et la mienne, bien sûr. Si dans ce texte il est écrit « Celui qui met sa foi en lui n'est pas jugé », il est ajouté « Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, déjà jugé ». Ce qui veut dire que Dieu n'a même pas besoin de juger, en fait. Le jugement, selon Jean, existe, mais il n'est pas celui qu'on croit. Le jugement est pour celui qui, ayant évité de mettre sa confiance en Dieu, n'a donc pas le bénéfice de sentir en lui la vie éternelle de Dieu. Ne pas sentir cette vie, voilà le jugement selon l'évangile de Jean. Plus haut dans notre texte, que je vous inviterai à relire, une phrase est explicite sur ce sujet, une phrase avec une meilleure traduction que ce que l'on entend souvent. Non pas ce qu'on entend souvent « pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle », ça c'est ce qu'on entend souvent, et une phrase que certains d'entre nous ont appris, mais « pour que quiconque croit ait en lui la vie éternelle ». Est-ce que vous entendez la nuance ? L'art de la nuance, c'est de faire basculer d'un monde de représentation à un autre monde très différent. Ici, nous sommes appelés à croire, c'est-à-dire en grec à avoir confiance, pour avoir en nous la vie éternelle, pour que cette vie éternelle, qui ne peut être que la vie même de Dieu, on ne parle pas ici d'une existence humaine infiniment prolongée, on ne parle pas de transhumanisme ou quoi que ce soit, que cette vie soit perçue comme telle, éternelle, en nous, de notre vivant. Et le jugement évoqué ici est bien plus terrible, en fait, qu'une morsure de serpent diabolique ou que d'être précipité dans des enfers qui, à l'époque, je vous le rappelle de l'écriture de Jean, n'existent toujours pas, vraiment. Le jugement, c'est quoi ? J'emploie cette formule parce que j'ai entendu récemment à la télévision que c'est une formule qu'on peut employer en prédication. Le prédicateur disait « Le Saint-Esprit, c'est quoi ?» Et donc, je le fais aussi, dans l'espoir peut-être un jour de passer à la télévision. Mais là, j'ai un peu le droit, parce que le jugement, c'est quand même une chose, c'est pas un Saint-Esprit, par exemple. Donc, le jugement, c'est quoi, chers amis ? Eh bien, c'est juste la normalité d'un monde, d'un tout le monde, d'un monsieur ou d'une madame tout le monde, qui court sans savoir où aller. Mais ça, c'est presque normal de ne pas le savoir. Mais surtout, sans savoir où vouloir aller, ni pourquoi, ni rien en fait. Suivre, souvent, stagner, le plus souvent. Un monde de tout le monde, un monde de compensation, un monde d'imagerie, un monde de représentation, qui parfois, ces représentations agglutinent des gens qui s'excitent idéologiquement, croyant enfin avoir trouvé la voie ou la vérité ou le Graal. Alors qu'ils ne sentent pas la vie éternelle de Dieu qui ne demande qu'à se révéler si leur cœur n'était pas si occupé dans le sens de l'occupation et donc de la collaboration, et en l'occurrence avec le vide. Voilà le jugement terrible que dépeint l'évangile de Jean. Dieu ne juge personne, simplement il ne peut se révéler à celui qui n'en veut pas. Est-ce sa faute à celui qui n'en veut pas ? Personne n'en sait rien. Et les théologiens ont beaucoup glosé sur le sujet. Mystère de la volonté, mystère de la providence, j'en sais rien. Moi non plus, toujours est-il que, selon ce même texte, ceux qui prétendent vivre sans la sensation de la vie éternelle de Dieu en eux, selon ce texte, font n'importe quoi dans les ténèbres. Qu'ils soient religieux, pratiquants ou athées convaincus, là n'est pas le problème. Il n'est pas question ici de religion, ça va un peu plus loin. Il s'agirait juste d'ouvrir les yeux, son cœur, sur la réalité profonde qui sommeille en chacun de nous. Alors, si nous avons cette sensation en nous de la vie éternelle de Dieu, pourquoi ne pas effrontément, finalement, par les temps qui courent en plus, où de plus en plus de gens commencent à sentir qu'il n'y a plus grand-chose à perdre, pourquoi ne pas partager cette évidence, cette sensation, par le témoignage qu'il s'agit là de l'axe de notre vie, que oui, c'est la source de notre confiance. Pourquoi laisser nos amis éventuellement subir ce jugement-là, un jugement sans juge? Mais peut-être que d'abord nous avons une démarche à faire. Est-ce que nous la sentons, cette vie éternelle de Dieu? Avant que de pouvoir en témoigner, cela serait utile d'abord de s'en rendre compte, surtout, ou en tous les cas, quand on est une église. Amen.